9h03 dans ce Positive Morning, et on vous l'avait dit un peu plus tôt, ce matin, on a réussi à avoir Médère, Annick Balocco qui est directrice, qui est avec nous en duplex. Bonjour Annick.
Bonjour.
On est vraiment heureux de vous avoir avec nous, et en plus de ça, eh bien, j'ai la chance et la joie de pouvoir animer ce moment avec Nathanaël qui m'a rejoint.
Exactement, je vais pas prendre la voix de Lisa, mais voilà, je vais remplacer Lisa.
Tu le ferais bien, je pense.
Bonjour, je m'appelle Nathanaël.
Lisa, voilà. Ah, c'est ça.
Avec, bon, on en rigole, mais une situation, vous le savez, qui est compliquée, hein, avec cette guerre du côté de l'Ukraine et beaucoup de réfugiés qui se déplacent actuellement vers les pays limitrophes. On va se concentrer aujourd'hui sur la situation des réfugiés ukrainiens en Pologne, Matt.
Et oui, on aimerait d'abord commencer avec vous, Annick, pour mieux connaître MEDER, cette organisation humanitaire qui est animée par la foi chrétienne. Bah déjà, pouvez-vous bien simplement nous présenter un petit peu MEDER de façon générale?
Oui, donc MEDER, c'est une ONG, donc une organisation professionnelle d'aide d'urgence, donc animée par les valeurs chrétiennes. Donc elle réunit des personnes qui sont des professionnels dans leur métier, différents métiers en lien avec les interventions d'urgence, et qui sont animées par des valeurs chrétiennes. C'est-à-dire ceux qui partent avec MEDER, ils choisissent MEDER parce que c'est une organisation chrétienne. Mmh. Après, sur le terrain, notre travail, c'est vraiment d'aider les personnes qui sont plongées au cœur des crises. Donc les crises, ça peut être les situations de conflit, comme aujourd'hui en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays dans lesquels on est engagé, des catastrophes naturelles ou d'autres situations de fortes crises, comme des situations de famine, d'épidémie, voilà, différents types de crises. Dans la solidarité internationale, il y a trois temps. Il y a l'aide d'urgence, la reconstruction et le développement. Mmh. Et donc MEDER travaille vraiment sur ces deux premiers aspects, l'aide d'urgence et la reconstruction, donc depuis 30 ans, wow. Suite au constat qu'il y a beaucoup d'organisations, il y avait notamment il y a 30 ans, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, beaucoup d'organisations chrétiennes qui travaillent sur le développement, beaucoup de missions, mais pas ou peu d'organisations chrétiennes qui interviennent, qui ont cette capacité d'intervenir très rapidement de façon professionnelle lorsqu'une crise de grande ampleur arrive. Mmh. Donc c'est vraiment notre identité.
Et on va parler plus particulièrement de cette action que vous allez commencer à mener, hein. Vous êtes déjà quelques personnes qui sont sur le terrain pour essayer d'évaluer la situation du côté de la Pologne, la situation de ces réfugiés ukrainiens. On le rappelle, hein, on parlait de 400 000 déplacés en milieu de semaine, et là on est ce matin, on annonce plus d'un million de réfugiés, et en très très grande partie du côté de la Pologne.
Annick, vos troupes sont parties du côté de la Pologne, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Donc, il y a une première équipe d'intervention d'urgence qui est partie sur la frontière ukrainienne côté Pologne, parce que c'est là qu'il y a vraiment les déplacements les plus massifs. L'évaluation est en cours, hein, donc il y a déjà des premiers axes qui se dessinent pour le début de l'intervention. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on exclut d'intervenir sur les autres pays frontaliers. Mmh. Hein, il y a toujours l'évaluation qui est en cours. Mais a priori, pour l'instant, le nombre de personnes le plus important est sur cette frontière polonaise. Donc, on n'exclut pas d'intervenir dans d'autres pays limitrophes, et puis, dans un second temps, d'intervenir aussi en Ukraine. Alors, mais dans un premier temps, c'est effectivement, comme vous dites, la Pologne.
Mmh. J'ai regardé un petit peu, hein, on le sait peut-être pas, mais l'Ukraine, c'est plus grand que la France. C'est-à-dire que oui. L'Ukraine et la France sont les deux pays européens, sur le continent européen, les plus grands. Et donc, c'est énorme. Toute cette surface. Est-ce que vous avez des éléments exactement sur la situation de ces personnes? Vous parlez que vous étiez à la frontière, situation de personnes qui viennent sur la frontière.
Eh bien, on a les données, mais ces données sont aussi présentes dans les médias, hein, du nombre de personnes qui ont réussi à traverser la frontière, du grand nombre de personnes qui sont encore bloquées à la frontière, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes pour avoir du carburant, pour arriver à la frontière. Donc, tout ce qu'on voit dans les médias, hier, j'ai fait le point avec le responsable de l'intervention d'urgence, et ce qu'il me disait, de ce qui se voit sur place, c'est ce qu'on voit pour l'instant, c'est ce qu'on voit pour l'instant dans les médias. Mmh. Donc, ces personnes qui arrivent, beaucoup de femmes et de mères de famille avec leurs enfants, de personnes âgées, de personnes malades. Et donc, si elles sont rassurées d'avoir passé la frontière et donc d'être à l'abri des hostilités, elles sont extrêmement inquiètes, stressées, d'une part parce qu'elles ont laissé des proches à l'intérieur, et d'autre part parce qu'elles savent pas ce que sera la prochaine étape. Oui. On peut bien imaginer, quand on est une maman avec ses enfants et qu'on se retrouve à l'étranger, il y a celles qui ont des membres de leur famille déjà en Pologne ou dans d'autres pays européens, mais il y a beaucoup de monde qui a pas d'attache. Donc c'est un grand à la fois le soulagement d'être sorti de la zone de conflit, mais une grande inquiétude pour l'avenir. Quoi.
Ouais, on a une grande pensée pour toutes ces familles qui traversent ces moments difficiles. Vous êtes parti avec combien de personnes sur place au niveau des équipes concrètement?
Ouais, donc la première équipe, il y a 3 personnes qui sont parties, il y en a 6 là qui arrivent, et l'équipe va augmenter de jour après jour. Donc je sais pas encore combien il y aura au final sur l'intervention, mais tout ça c'est aussi lié à l'évaluation et au partenariat qu'on va pouvoir mettre en place éventuellement avec des organisations qui sont sur place, parce que MEDER travaille sur nos autres interventions. Il y a 2 types d'actions possibles, soit déjà ce sont toujours des actions en concertation avec les autres organisations impliquées, hein. On n'est jamais tout seul à agir, donc on se coordonne avec les autres organisations impliquées, mais donc soit effectivement il y a des actions qu'on mène nous-mêmes avec nos équipes, ou alors on vient en renforcement d'organisations qui sont impliquées sur place pour renforcer leurs capacités, leur donner des moyens supplémentaires, parce qu'on a cette expertise de gestion de crise. On est intervenu dans d'autres pays, hein, la crise syrienne, on est en Afghanistan, au Yémen, sur d'autres situations très très compliquées que les acteurs locaux qui étaient impliqués en Pologne ou dans d'autres pays frontaliers n'ont pas forcément l'expertise de la gestion de crises massives.
Et on verra dans quelques instants justement ce que vous avez fait concrètement sur ces zones-là, et pouvoir un petit peu peut-être anticiper ce que vous pourrez faire du côté de la Pologne.
Qui sont partis, nous le disait quelques instants, avec des troupes du côté de la Pologne pour aider ces réfugiés. On le disait, hein, plus d'1 million de personnes, là, ce matin, ces derniers chiffres qui est tombé, qui quittent le pays et qui donc se retrouvent dans les pays limitrophes. Et on voulait, avant d'aller justement dans vos actions, MEDER, parler de votre expérience, déjà nous dire, Annick, qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagé? Pourquoi vous êtes lancé dans cette mission, aller aider et secourir ces réfugiés?
Alors l'Ukraine, c'est un pays qui était à l'étude depuis quelques semaines par l'équipe d'urgence, hein, qui voyait quand même la situation s'aggraver. Lorsqu'il y a cette réflexion pour un engagement dans un pays ou sur une crise, il y a 3 aspects qui sont pris en compte. Le premier, c'est l'échelle de la crise. Le deuxième, c'est le niveau de vulnérabilité. Et le troisième, c'est la capacité à faire face localement. Alors, si je prends ces 3 aspects, l'échelle de la crise, elle est massive, en fait. Tout le pays entier est touché. Les experts parlent de 18 millions de personnes qui pourraient être affectées d'une façon ou d'une autre. Donc, ça veut dire les réfugiés, les déplacés et tous ceux qui subiront d'une façon ou d'une autre les effets de ce conflit. Donc là, tout de suite, la crise, elle est rentrée dans le top 3 des crises humanitaires. En une semaine, c'est devenu l'une des crises majeures. Le niveau de vulnérabilité, il est très, très élevé, parce que, comme on disait à l'instant, il y a beaucoup de femmes seules avec leurs enfants qui se retrouvent donc sans rien. Elles sont parties les mains vides ou juste avec une petite valise de personnes âgées. Et même si aujourd'hui on peut dire que leur niveau de vulnérabilité n'est peut-être pas aussi élevé qu'au Yémen ou dans d'autres pays dans lesquels on intervient, tous les indicateurs sont là quand même pour dire que la vulnérabilité va être très élevée sur cette crise, elle va augmenter. Et puis le troisième élément, c'est la capacité à faire face. Et c'est clair que l'Ukraine ne peut pas s'en sortir seule. S'il y avait une catastrophe naturelle, par exemple, il y avait des capacités en Ukraine. C'est pas un pays qui est complètement démuni. Mais là, c'est un pays entier, donc qui est dans le conflit. Et donc, il n'y a pas la capacité à faire face seule, ni pour l'Ukraine, ni pour les pays limitrophes. Donc, c'est la considération de ces trois aspects qui a motivé l'équipe d'urgence de MEDER à s'engager sur cette crise.
Annick, on parlait tout à l'heure de votre expérience sur d'autres situations, des situations de guerre et de déplacés, de réfugiés, comme celle que l'on vit actuellement du côté des frontières de l'Ukraine. C'est des choses que vous avez déjà vécues et quelles choses vous avez mis en place dans ces situations-là ?
Oui, donc c'est vrai que ça évoque plusieurs pays dans lesquels on est engagé. L'un des pays que ça évoque, c'est la crise syrienne, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de réfugiés qui sont allés au Liban, en Jordanie. Donc, dans un premier temps, on a travaillé avec nos équipes dans les pays d'accueil, Liban, Jordanie. Donc, au début, pour distribuer des articles essentiels, donc des couvertures, des tentes, des abris, nécessaires pour l'hygiène, nécessaires pour cuisiner, enfin les choses de base que les personnes n'ont pas. La différence près, c'est que par rapport aux conditions climatiques aujourd'hui, il n'est pas forcément envisagé, à ce stade, la construction de camps avec des abris, comme c'était le cas au Liban, par exemple. Donc ça, c'était au Liban. Et donc, dans un premier temps, il y a eu cette aide d'urgence. Et après, MEDER a joué et joue toujours un rôle vraiment très, très important dans la coordination de l'aide pour l'ensemble des acteurs sur place. C'est-à-dire qu'au Liban, les réfugiés sont dans des campements informels et il s'était agi de voir comment faire en sorte de s'assurer que tous les réfugiés soient aidés par l'une ou l'autre organisation et qu'il n'y ait pas certains réfugiés qui soient aidés par plusieurs organisations et d'autres sont privés d'aide. Donc, on a mis en place tout un système de cartographie en lien avec le HCR, donc le Haut Commissariat aux Réfugiés, pour cartographier et suivre les réfugiés et leurs déplacements et nous assurer que chacun reçoive bien l'aide dont il a besoin. Donc ça, c'est le Liban. En Jordanie, la situation est un peu différente parce qu'il n'y avait pas de camp. Donc là, on a aidé les réfugiés à être hébergés en dur, on va dire, dans des appartements, dans des pièces, chez les habitants, etc. Donc, on leur donnait les moyens financiers de ne pas être à la rue et de pouvoir être hébergés. Et
merci.
Ensuite, dans un second temps, ensuite, on est intervenu en Syrie, mais plus tard, en fait.
Bon, on développera ça dans un instant. En tout cas, on voit votre expérience sur le terrain de coordination, de mise en place. Et
c'est Nat et Matt pour cette émission jusqu'à 10h.
J'ai l'impression d'avoir un paquet de chips ou de gâteaux créatifs.
On pourrait créer une marque,
Nat et Matt.
Il faudrait créer une marque. On est surtout aussi avec Annick Balocco qui est avec nous, directrice de MEDER France, une organisation internationale humanitaire qui est animée par la foi chrétienne. On parle avec vous de cette situation, bien sûr, en Ukraine, parce que vous avez mobilisé des équipes, on le disait, du côté de la Pologne pour aller aider les réfugiés. Mais on parlait il y a quelques instants de la Syrie, Nat.
Oui, on donnait quelques exemples parce que vous êtes au début de l'action. D'abord, c'est identifier les besoins qui sont sur place, coordonner aussi des actions avec des organisations qui sont sur place. Ça, on l'a compris aussi. Mais on essayait de comprendre à quoi ressemblerait finalement votre action du côté de la Pologne face à plus d'un million de réfugiés ukrainiens qui se répartissent sur différents pays. Il y a la Hongrie, il y a aussi la Moldavie en partie, la Slovaquie si je ne me trompe pas, je fais tout ça de tête, la Roumanie, mais surtout et essentiellement la Pologne. Alors vous parlez de la Syrie et en antenne vous disiez que c'est peut-être ce qui va ressembler le plus, en tout cas la situation de la Syrie est comparable avec ce que vous vivez du côté de la Pologne et les réfugiés ukrainiens, c'est bien ça Annick ?
En tout cas, le rapprochement, c'est que sur la crise syrienne, dans un premier temps, on a travaillé auprès des réfugiés qui étaient dans les pays limitrophes. Et dans un second temps, on a travaillé à l'intérieur du pays, en Syrie. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'à ce stade, les choses peuvent encore évoluer. Mais à ce stade, l'équipe voit les choses. C'est-à-dire, dans un premier temps, travailler auprès des réfugiés. Et dans un second temps, essayer de travailler à l'intérieur du pays. Donc, on parlait là à l'instant de l'aide matérielle, de la question du logement, donc de l'abri, donc au Liban. En Jordanie, on aidait plutôt les gens à être en capacité de payer leur loyer en leur donnant de l'argent. Et de ce que me disait mon collègue hier, c'est un peu cette ligne qui se dessine, essayer de favoriser toutes les pistes pour un hébergement en dur. parce que les conditions climatiques sont très rudes actuellement. Donc l'équipe est en contact avec beaucoup d'autres organisations, avec des églises. On voit aussi la solidarité des gens qui ouvrent leur foyer.
Quand on parle de la situation météo, il fait quelle température, il fait quel temps? Parce que là, on est les gens nous écoutent du côté de Marseille, de Paris, de l'est de la France. Voilà, quelle température on s'attend sur place actuellement et dans les prochains jours?
Bah, il gèle. Donc il fait vraiment, il fait froid. Donc les gens peuvent pas être sous une bâche, sous un abri dehors, parce que souvent sur d'autres interventions, donc au Liban par exemple, au début les gens se faisaient des abris de fortune avec ce qu'ils trouvaient, des bâches, des bouts de bois, et ensuite on a mis en place des abris beaucoup plus solides, ensuite on les a isolés en prévision d'hiver suivant. Au Bangladesh c'était pareil, donc au Bangladesh en 2017 il y a eu plus de 700 000 Rohingyas qui ont fui la Birmanie, qui ont trouvé refuge au Bangladesh, et donc MEDER est intervenu sur cette crise, et au début c'était la distribution de kits assez sommaires pour mettre les populations à l'abri. Ensuite ça s'est consolidé, maintenant c'est des abris beaucoup plus solides qui sont mis en place, mais sur ce contexte là c'est envisageable. Donc c'est suivre toutes les pistes pour que les gens puissent être au chaud, être hébergés en dur dans des bâtiments, dans des foyers, et donc c'est la piste qui est suivie de façon privilégiée par nos équipes actuellement.
Sur votre site internet, vous dites que vous préparez une intervention de grande ampleur. De quoi s'agit-il plus précisément, Annick?
Donc tout est encore en train de se mettre en place, mais comme je vous disais, en une semaine, la crise elle est arrivée dans le top 3 des crises humanitaires du monde. Donc c'est clair qu'il va y avoir une intervention majeure. Et l'un des éléments importants, c'est qu'on voit aujourd'hui un grand élan de solidarité, et c'est vraiment très encourageant de voir à la fois ce qui se passe en Europe, déjà les pays qui ouvrent les frontières, ce qui n'a pas toujours été le cas, et tous ces Polonais, ces Roumains, toute cette mobilisation des personnes qui viennent à la frontière, qui apportent du matériel. La seule chose, c'est que maintenant, ça va devoir un peu se professionnaliser, dans le sens où les gens apportent ce qu'ils pensent être utile, mais sans se baser vraiment sur les besoins prioritaires des réfugiés. Donc le travail de MEDER, et pourquoi est-ce qu'on fait ces évaluations quand on démarre une intervention, c'est de voir quels sont, non pas qu'est-ce qu'on peut donner nous, mais quels sont les besoins prioritaires, quoi. De quoi ces gens ont-ils besoin aujourd'hui en priorité? Et c'est toujours une approche qui est basée sur, non pas sur ce qu'on a, mais sur les besoins des populations, des réfugiés. Donc il va y avoir a priori dans un premier temps cette distribution matérielle, dans différents domaines, une aide dans le domaine de la santé, parce que c'est toujours le cas lorsqu'il y a des crises comme ça, les gens partent, même les gens qui ont des maladies chroniques, ils partent sur leurs médicaments donc il va y avoir une aide matérielle et aussi une aide psychosociale. Moi je me souviens il y a 20 ans quand on était intervenu en Albanie, il y avait un monsieur qui avait dit: vous nous avez aidé à reconstruire notre maison, mais qui va nous aider à reconstruire notre âme? Parce qu'il y avait vraiment de très très forts traumatismes, et donc dans toutes nos interventions, on parlait de la Syrie, et notamment, on a un grand programme d'aide auprès des adolescents qui sont traumatisés.
On va en continuer à en parler en quelques instants. Restez avec nous, il y a tellement de choses à dire sur cette situation en Ukraine. On est avec Annick Malocco.
Phare FM. Chez vous, en voiture, au travail. Phare FM. Écoutez.
Merci d'être avec nous encore ce matin pour une émission spéciale. On vous l'avait dit, on a Annick Malocco avec nous, directrice de MEDER, une organisation humanitaire internationale qui se mobilise aujourd'hui avec des troupes pour aller du côté de la Pologne pour aider, secourir ces réfugiés. Et vous n'êtes pas les seuls, vous nous le disiez, Annick, un peu plus tôt, à vous mobiliser d'ailleurs, puisque vous faites partie maintenant d'un collectif, le collectif AZA.
Oui, tout à fait. Donc, on fait partie de la coordination AZA. C'est une coordination d'ONG chrétienne francophone qui est mobilisée sur cette crise. Peut-être vos auditeurs la connaissent parce qu'AZA a organisé des événements comme la course caritative Hope 360, le Salon des Solidarités dans le passé. Et donc, aujourd'hui, il y a une petite dizaine de membres d'AZA qui sont impliqués sur cette crise ukrainienne. Donc, il y a l'association La Gerbe, il y a l'ADRA, il y a Secours Protestant, Portes Ouvertes. Enfin, donc, il y a pas mal d'autres organisations qui sont impliquées. Et AZA coordonne et fait le lien entre ces différentes organisations. Et certaines de ces organisations vont acheminer du matériel sur place, ce qui n'est pas le cas de MEDER. Et donc, c'est vrai que s'il y a certains de vos auditeurs qui souhaitent vraiment être participer à cette dynamique d'acheminer du matériel, ils pourront se connecter sur le site de ASAH, donc A-S-A-H, pour avoir plus d'informations sur les actions menées. Je sais qu'ils vont aussi mettre en place un système pour recenser les possibilités de logement en France. Donc, il y a vraiment une dynamique intéressante qui est menée dans le cadre de ce collectif.
Alors ça, c'est ce que fait ce collectif-là avec, on le disait, hein, peut-être la mobilisation de ce que nous, du côté de l'Europe, du côté de la France, de la Belgique ou la Suisse, on aimerait faire. Donc on va redonner le site internet, hein, c'est ASAH. Je ne sais pas si vous l'avez donné d'ailleurs.
Non, mais c'est collectif ASAH.
Collectif ASAH, voilà.
Après, je ne sais plus si c'est FR ou quoi.
On va trouver ça en attendant.
Désolée, mais c'est collectif ASAH.
Mais vous concernant, quels sont vos besoins? Voilà, on entend votre action, on sait que vous allez vous acheminer du matériel que vous allez acheter. Donc, comment on peut vous aider concrètement là en vous écoutant ce matin?
Donc, effectivement, la façon la plus efficace de nous aider, c'est de faire des dons, parce qu'on va acheter du matériel en grande quantité, comme on le fait donc dans l'ensemble des crises dans lesquelles on intervient. Voilà, l'idée, c'est aussi par là de pouvoir contribuer à l'économie des pays limitrophes, hein, et donc on va acheter du matériel en grande quantité sur place. On a les frais de gestion de l'équipe. On veut vraiment aussi être en appui, certainement, à d'autres organisations. Donc, la façon la plus efficace à ce stade, c'est donc de faire un don. Donc, ça peut être un don d'un particulier, d'un de vos auditeurs. Ça peut être une collecte dans une église. Ça peut être aussi un don d'entreprise. Donc, il y a différentes possibilités de se mobiliser. Et puis, donc, en faisant un don en ligne sur notre site, meder.org, ou en envoyant un chèque donc à notre bureau. Donc, c'est MEDER. L'adresse, c'est 5 avenue Georges Abel, 26120 à Chabeuil. Donc Chabeuil.
On remettra toutes ces coordonnées, hein, sur notre site internet, puisque cette émission sera en replay très très vite dans la matinée, et vous retrouverez l'ensemble de ces informations.
Exactement. Et puis je peux rappeler le site, hein, du coup, pour ASAH, c'est new.collectif-asa.org.
Qu'on mettra aussi sur notre site internet.
Qu'on mettra aussi sur le site, parce que sinon ça va être un peu compliqué. On a la joie de pouvoir parler avec vous de ce que vous mettez en place actuellement avec vos équipes. Vous mobilisez beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour aller aider ces réfugiés du côté de la Pologne. Et on voulait continuer avec vous avec une autre question de notre.
Exactement, puisqu'on voit qu'il y a des millions, il y a un million au moins en tout cas pour le moment, hein, de réfugiés qui sortent de l'Ukraine pour se protéger face à cette guerre. Forcément, ça va mobiliser beaucoup de personnes, et les équipes de MEDER sont sur place. On parlait de l'aide qu'on peut vous apporter, une aide financière, hein, directement sur votre site internet notamment. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles particuliers pour vous aider dans vos actions?
Alors, le fonctionnement de MEDER, c'est d'être une organisation professionnelle. Donc, tous ceux qui partent avec MEDER, ils ont déjà une formation dans un domaine d'expertise de MEDER, et ils ont fait une formation au départ. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas fait cette formation au départ avec MEDER, il va pas pouvoir rejoindre nos équipes sur le terrain. Mais il y a d'autres organisations membres du collectif ASAH, dont vos auditeurs qui auraient envie de s'engager pourraient s'approcher et voir si ils pourraient s'engager de cette façon-là concrètement, en prêtant main forte aux équipes. Voilà.
Alors, j'entends ce que vous dites en disant, alors moi j'aimerais vraiment vous aider, alors c'est peut-être pas pour cette crise-là, mais pour plus tard. Donc si j'ai envie de m'engager maintenant, on peut quand même se rapprocher de vous pour envisager d'être plus tard un bénévole et un compagnon, j'allais dire, de MEDER.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que on a en permanence sur nos différentes interventions dans le monde, hein, on est dans 12 pays. On a une centaine d'équipiers internationaux qui travaillent et qui vont travailler sur place avec du personnel local, parce que dans les pays, il y a beaucoup de personnes compétentes, hein, donc on a à la fois du personnel international et du personnel local qui travaille. On recherche en permanence des équipiers pour rejoindre ces différentes interventions. Donc pour ça, et je pense notamment aux jeunes, c'est important de pouvoir se former. Il y a plein de formations qui existent, avoir une première expérience dans un cadre sécurisé, on va dire, et ensuite effectivement contacter MEDER pour proposer un engagement.
Est-ce qu'il y a un profil particulier que vous cherchez? Je ne sais pas si des infirmières, des docteurs ou des techniciens, mécaniciens, aucune idée. Je pose la question.
Ouais, en fait, il y a différents types de profils qui sont recherchés. Il y a les techniciens, effectivement, dans les différents domaines que vous citez, mais souvent, une infirmière, elle va penser qu'elle va pouvoir partir avec MEDER parce que le médecin, il pense plus facilement à l'humanitaire. Mais on recherche aussi des professionnels dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, dans le domaine de la reconstruction. Donc ça, ce sont des techniciens. Et on recherche aussi des personnes qui ont des fonctions support dans la gestion, dans l'organisation, dans la logistique, dans la communication. Et ces personnes-là, elles pensent pas forcément que leur profil est recherché. Donc on cherche des personnes qui ont une expérience dans leur domaine, qui ont déjà travaillé, qui parlent anglais parce que nos équipes sont internationales, qui partagent les valeurs chrétiennes de MEDER, hein, c'est quelque chose d'important, et qui sont prêtes à partir sur du long terme parce qu'on s'engage au moins pour 2 ans avec MEDER.
Ah, c'est génial, on va parler justement avec vous de votre engagement de foi parce que vous êtes une organisation chrétienne. Dans quelques instants, on va parler aussi de comment eh bien, nous pouvons nous prier, nous engager dans... Eh bien, dans ce combat, j'ai envie de dire spirituel également. Vous êtes bien sur Phare FM, il est 9h49. Nous sommes avec MEDER, Annick Balocco, qui est directrice de MEDER France. On le disait il y a quelques instants, Annick, qu'on aimerait parler avec vous justement de votre engagement spirituel. Mais avant, juste vous poser encore une question concernant le terrain.
Exactement, on a compris que l'action ne peut pas se faire sur le terrain, même en Ukraine, de par la situation de guerre. Dès que c'est possible, vous allez aller sur place. À quoi ressemblera vos actions sur place avec les équipiers de MEDER?
Alors, ce qui se dessine actuellement, mais qui va certainement encore évoluer d'ici là, mais c'est d'apporter une aide matérielle donc aux personnes qui ont été déplacées, parce que là, hier, il y avait 100 000 personnes déplacées, mais ce nombre va forcément augmenter. Donc, personnes déplacées, c'est la même situation que ceux qui sont réfugiés. Hein, ils ont rien, ils ont tout perdu, sauf s'ils ont des familles qui peuvent les accueillir, mais c'est pas forcément le cas. Donc, leur fournir une aide matérielle, et puis aussi un soutien dans le domaine de la santé mentale et psychosociale. Donc on envisage de faire ça aussi en lien avec des partenaires locaux parce qu'il y a des organisations présentes qui sont actives à l'intérieur de l'Ukraine. Hein, c'est différent que dans d'autres pays dans lesquels on intervient où il n'y avait pas forcément des grandes capacités sur place. Donc l'idée c'est de voir déjà définir une zone prioritaire et de voir comment appuyer les organisations présentes pour leur permettre d'augmenter leur capacité. Et ce volet psychologique, santé mentale, c'est un volet vraiment important. On peut aussi faire le lien sur d'autres crises, par exemple sur la crise syrienne, c'était le cas aussi en fait. C'est vraiment un volet très important.
Oui, justement, vous le dites, hein, c'est la part de spiritualité, de foi, pour vous, en quoi elle joue un rôle déterminant dans cette crise notamment?
C'est important parce qu'on peut prier. Enfin, ce qui caractérise les équipes de MEDER, c'est qu'ils sont chrétiens, donc ils peuvent se retrouver ensemble pour prier pour la situation et puis chercher par leurs actions à être témoins de l'amour du Christ auprès des personnes touchées. Donc nous, bien sûr, on aide tout le monde indépendamment des croyances. On est des chrétiens qui vont aider les plus vulnérables et les personnes sont sélectionnées uniquement sur leur niveau de vulnérabilité. Donc l'objectif, c'est d'aider celles qui ont le plus grand nombre de besoins, celles qui sont les plus vulnérables, et de pouvoir leur apporter l'aide dont elles ont besoin, et ainsi d'être témoins de ce qui nous anime.
Comment est-ce qu'on peut nous prier en entendant ça ce matin là, les auditeurs, auditrices se disent, pour ceux qui aimeraient prier pour la situation, dans quel sens vous diriez qu'il faudrait que l'on prie, nous, face à la situation, et vos besoins, vous, MEDER?
D'accord, alors il y a plein de sujets. Hein.
Mais on est là jusqu'à demain matin.
Bon, déjà, on peut bien sûr prier pour la paix et pour le peuple ukrainien, prier pour la protection de ceux qui sont en danger immédiat, et aussi pour ceux qui sont en sécurité. On en parlait tout à l'heure, ils ont franchi la frontière, ils sont à l'abri des hostilités, mais ils sont dans une profonde inquiétude pour leurs proches restés au pays, pour leur avenir. Ils ne savent pas ce qui se passera demain pour eux, pour toutes ces femmes et ces enfants, toutes ces personnes traumatisées qui ont perdu l'espoir parce que leur vie s'est effondrée. On peut prier aussi pour toutes les organisations impliquées, effectivement, pour MEDER, pour qu'on puisse répondre de façon la plus efficace possible aux besoins moins prioritaire et être témoin du Christ. Mmh. On peut prier pour toutes les autres organisations, membres d'ASA et les autres qui sont sur place, parce qu'il y a beaucoup d'organisations chrétiennes qui sont mobilisées, et pour une bonne coordination de l'ensemble des organisations chrétiennes, et pas seulement, en fait, que l'action se mette en place efficacement, de façon coordonnée. On peut prier aussi pour cet élan de générosité qu'on voit qui puisse durer. On voit que les pays ouvrent les frontières, il faut que ça, voilà, que ça puisse durer et que cet élan continue. Et puis prier, bien sûr, pour les dirigeants de notre monde, en fait, hein. La Bible nous appelle à prier pour les dirigeants du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation, c'est important de prier pour tous les dirigeants.
Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui peut-être s'inquiètent aujourd'hui, même parmi ceux qui croient, des croyants, qui s'inquiètent énormément pour ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent dans les médias, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager peut-être ce matin ?
Eh bien, que la prière est efficace, hein, et qu'effectivement, on a la chance de pouvoir prier, trouver notre réconfort dans la présence de Dieu qui est à côté de nous, quelles que soient les situations. Nous, on a quand même le privilège d'avoir été préservés de ce type d'inquiétude ces dernières décennies. Mais au travers du monde, il y a des millions de personnes qui souffrent et qui sont confrontées à des situations très, très graves, hein. En 2022, il y a 274 millions de personnes dans le monde qui ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Aujourd'hui, on vit une réalité qui nous bouleverse parce qu'on ne s'y attendait pas, c'est tellement brutal. Mais malgré tout, on peut compter sur la présence de Dieu, sur son accompagnement, et puis je pense qu'on peut vraiment trouver le réconfort dans la prière et dans de nombreux textes qui sont dans la parole de Dieu et qui nous invitent à faire confiance.
Merci Annick Baloko, en tout cas, d'avoir été avec nous. On résume, hein, la situation. MEDER est sur place. MEDER a besoin de soutien, notamment financier, par rapport à cela. On vous donnera tout l'ensemble des éléments. Ce que vous en avez appris aussi ce matin en plus, c'est qu'il y a d'autres organisations qui sont en train de se coordonner, notamment ASA, qui permet de pouvoir coordonner pas mal d'actions concernant cette situation en Ukraine, les Ukrainiens réfugiés aux frontières, hein, de l'Ukraine, mais aussi les différentes aides que l'on peut avoir. Vous mettra l'ensemble de ces éléments et l'intégralité de cette interview en replay sur notre site farfm.com. On va préciser aussi, Annick Baloko, que Phare FM et MEDER vont travailler main dans la main dans les prochains jours, prochaines semaines, pour relayer l'ensemble de la situation et vous faire connaître un petit peu tout cela. Et on aura l'occasion de pouvoir partager un petit peu plus sur la situation de ces réfugiés, notamment sur à la frontière avec la Pologne, mais aussi peut-être d'autres actions que vous mènerez d'ici là.
On vous remercie.
Un grand merci. Merci pour votre intérêt et merci pour votre soutien. On est très reconnaissants.
Eh bien, un grand merci à vous, Annick. Beaucoup de courage à toutes vos équipes aussi qu'on salue. Et puis, vous nous avez encouragé aussi à prier. Peut-être que ce matin, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Vous aimeriez pouvoir faire quelque chose. Vous n'avez pas forcément de moyens financiers, mais vous pouvez prier pour cette situation. Mettez-le dans votre petit carnet, dans votre petite liste de prières. Priez pour MEDER, priez pour ASA, priez pour tous ceux qui ont besoin d'aide et de soutien aujourd'hui, ces familles auxquelles on pense vraiment de tout cœur avec Phare FM, unis ensemble pour faire ce qu'on peut. Et nous croyons vraiment que Dieu fera le reste. On vous remercie encore, Annick. On vous souhaite une très belle journée. Et à bientôt, au plaisir.
Merci, à bientôt.